Mémodio, une mémoire sonore.
La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie. La poésie, c'est jeudi, et jeudi, c'est aujourd'hui. Mmh. Bonjour. Bonjour Patrick.
Bonjour Isabelle.
Alors, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Mais ça va très bien. Je te rappelle que nous fêtons tout de même les 5 ans de l'émission.
Non.
Qui aurait cru quand j'ai commencé?
5 ans d'émission.
Ouais, ouais, 5 ans déjà. Et donc, en ce mois d'avril, évidemment, nous allons fêter cela. Et on commence dès aujourd'hui avec notre invité qui est Clément Boleno. Bonjour Clément.
Bonjour Isabelle, bonjour Patrick.
Bonjour Clément.
Ah bah on est vraiment ravis. Bon, moi je t'ai découvert, Patrick, c'est, il va te découvrir, hein, parce que j'en sais un peu plus que lui, pour une fois. Tu es où là, Clément?
Ben écoute, je suis à Lyon.
Oui.
À mon bureau, derrière mon ordinateur.
Ok.
Avec les petits caprices de la technique, mais bon, c'est l'essentiel.
Oui, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Donc, Clément Boleno, donc poète, jeune poète, je dis, j'aime bien dire jeune poète, ça m'évoque Rilke. Et donc, Clément, oui, qui a déjà eu une publication chez Gros Texte, avec Demain Incertain, nous allons parler de ce recueil. Plusieurs parutions dans des revues, hein, des ouvrages collectifs, on en reparlera aussi. Oui. Et puis, on va parler évidemment de ce recueil Non-lieu qui vient d'être imprimé. Là, ça y est, il sort de l'imprimerie aux éditions L'Aïe des Ours. Alors,
exactement.
Heureux.
Oui, bah, très, oui, c'est sûr. C'est tout frais, hein, la sortie de ce recueil. Il vient juste de sortir de l'imprimeur. C'est vraiment chouette, je suis très content.
Ouais, bah oui, moi je suis contente pour toi aussi. On est content, hein, Patrick. Alors, Clément, ce qu'on dit de toi, c'est que tu milites pour la poésie à l'école, que tu écris par nécessité pour ne pas accepter le monde tel qu'il est. Donc tu es un résistant?
Oui, peut-être. Je sais pas, en tout cas, je pense qu'il y a quand même effectivement des choses qui tournent pas rond, comme on dit, et que ne pas, enfin, ne rien dire reviendrait à les accepter et à trouver ça normal, en fait.
Ouais.
Oui, c'est un petit peu dans cette idée-là que je t'ai dit ça.
Ouais.
Et pour moi, quand tu dis une minute pour la poésie à l'école, c'est, puisque mon métier d'origine, c'est enseignant, effectivement, je pense que dès le plus jeune âge, c'est important de donner aux enfants, de leur faire connaître les mots, la poésie, qui a un autre regard en fait sur les choses, qui est souvent une petite prise de distance, un petit pas de côté, et puis d'essayer en fait de dire les choses autrement. D'essayer de porter un discours autre sur ce qu'on voit, sur ce qu'on nous dit tout le temps, sur ce qu'on fait, un petit peu une alternative, hein, puisque alter ça veut dire autre. Voilà, donc d'apporter quelque chose de différent. Et je pense que le fait de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à un autre discours, à des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, ça peut être que bien pour la suite, pour le développement de leur esprit critique, pour leur faire prendre conscience que tout ce qu'on connaît aussi, c'est pas forcément parce que on fait toujours comme ça que ça sera toujours comme ça, et qu'il peut y avoir aussi d'autres façons de faire, de voir les choses, de fonctionner.
Oui, c'est ça, une autre manière de voir les choses. Ouais.
Voilà, il y a peut-être un côté un peu naïf parfois dedans, mais je pense au contraire que les enfants, ils ont vraiment besoin de ce temps de respiration. Moi, je vois par exemple à l'école, c'est les journées, il y a quand même, c'est quand même dense, hein, pour les enfants, tout ce qu'ils ont à l'école.
Ouais.
Et souvent, les temps de poésie, en fait, c'est des moments aussi où où le temps se ralentit, où il y a des enfants qui vont parfois être en difficulté scolaire et puis qui vont réussir à rentrer dans autre chose à ce moment-là, à s'approprier d'autres codes, quoi. L'année dernière, je me rappelle, j'avais des CM1, CM2 à un moment et en fait, j'avais des élèves qui étaient plutôt en difficulté scolaire. Et en fait, quand on a abordé la poésie avec notamment un lien avec la musique, comment mettre son texte en voix, sur de la musique, alors en fait, ils sont un petit peu découverts à ce moment-là et c'était très chouette en fait de les voir s'emparer de ça.
Oui, et puis un chouette moment de partage pour eux aussi, j'imagine, et de exactement, se découvrir. Oui. Hein. Alors oui, justement, j'allais revenir sur ces interventions en milieu scolaire. Quand tu dis intervention en milieu scolaire, transmission, ça se passe comment? C'est dans le cadre de tes classes ou est-ce que tu interviens aussi dans d'autres établissements scolaires? Et qu'est-ce que tu leur fais découvrir en termes de poésie?
Eh ben en fait, jusqu'à présent, c'était quand même plutôt dans ma classe, parce que comme tu as dit, je suis un jeune poète, donc
oui. J'ai pas encore, on va en reparler.
Voilà, je suis pas encore intervenu beaucoup, mais donc pour l'instant, je le fais plutôt dans ma classe avec mes élèves. Donc je leur faisais souvent des poésies, et puis c'était souvent aussi, à partir d'une poésie, on va essayer d'écrire. C'était pas la poésie dans le sens on apprend un texte et puis on récite et puis on fait un dessin à côté de la poésie.
Ça c'est l'image, non, mais, le grand classique, ouais.
Ben, en fait c'est très souvent c'est ça l'image qu'on a de la poésie, oui. Et puis c'est souvent ce qui est aussi véhiculé par les collègues, alors assez ben, parce qu'en fait ils et elles ont appris comme ça, donc ils refont comme ça. Donc voilà, moi l'idée c'est vraiment d'essayer aussi de les faire écrire, de les faire s'interroger sur le sens, de les faire s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on dit ça comme ça, pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'on veut dire avec cette façon d'écrire là. Et là, ben je vais aller en dehors de ma classe, ça sera une première pour moi au mois de mai, je vais intervenir dans une école dans une commune pas très loin de Lyon. Et je vais intervenir sur plusieurs classes, sur 4 classes différentes.
Et là, avec ta poésie, avec tes textes, j'imagine.
Alors avec mes textes, avec aussi les textes d'autres personnes, parce que des fois, enfin, ça dépend des thématiques aussi. S'il y a des fois, il y a des enseignants qui ont une thématique, donc s'ils veulent qu'on intervienne autour d'une thématique, ben du coup, j'ai essayé de trouver des textes aussi en rapport, parce que moi, j'écris pas forcément. Des textes sur toutes les thématiques non plus. Il y a aussi des textes qui sont peut-être un peu plus adultes, entre guillemets, dans ce que j'écris.
Oui.
Donc voilà, après, c'est aussi... pour moi, la poésie, c'est aussi un partage. C'est aussi faire rencontrer des voix, des mots, des écritures. Donc l'idée, c'est aussi, bien sûr, de parler de ce que je fais, mais de montrer aussi ce qui se fait, de montrer des choses aux enfants, de leur faire découvrir des auteurs, et puis ça fait aussi découvrir des poésies aux enseignants qui parfois ils me disent j'ai des collègues des fois à l'école, ils me disent je sais pas trop quoi faire, j'ai l'impression que je fais un peu toujours les mêmes textes, que c'est toujours un peu gnangnan, que les élèves ils s'ennuient un peu. Alors voilà.
Alors là, j'ai une question qui surgit, mais en fait, elle trotte dans ma tête depuis que tu as commencé à en parler. Tu leur fais découvrir des poètes vivants?
Oui, j'essaye, oui. Mm-hmm. Oui, j'essaye. Ben, par exemple, l'année dernière, quand j'avais mes CM, on a travaillé sur une poétesse que tu connais bien, puisque tu l'as invitée.
Ah, laquelle?
Je leur ai proposé un texte de Samantha Barenson.
Ah, mais on la salue, Samantha Barenson, on l'embrasse même.
Je la salue également.
Oui, bonjour Samantha.
On a travaillé donc sur un texte qui est issu de son recueil Machine arrière.
Oui.
Et voilà, donc c'est un souvenir en fait qu'elle avait de l'école, elle, quand elle devait faire une autodictée.
Ah oui.
Donc le principe, on apprend un texte par cœur et puis on doit l'écrire sur une page.
Et sans faute.
Voilà, sans faute, on doit l'écrire sans faute. Rappeler mot à mot à la virgule près de ce texte. Et donc dans ce souvenir, Samantha, en fait, elle se fait prendre en train de tricher par, euh, par la maîtresse.
Ouais.
Et donc moi, du coup, je leur ai lu ce texte en classe et on a travaillé à partir de ce texte-là.
Et ça leur a plu.
Oui, beaucoup, et parce qu'en fait, ça leur parlait.
Ils se sont bien trichés depuis ou...
Ben, je sais pas, mais je sais qu'il y a des enfants qui m'ont dit après, un des maîtres, moi, dans la dernière évaluation que tu as fait, j'ai triché, hein, j'avais un truc dans mon bureau.
Et alors, dis-moi...
J'ai dit, bon, bah, écoute, j'ai rien vu, alors ouais. C'est comme s'ils n'avaient pas entendu.
C'est ça. Et alors, dis-moi, comment c'est arrivé chez toi la poésie, Clément?
Alors, c'est arrivé il y a longtemps. En fait, je dirais que mes premiers contacts, vrais contacts, ça date du lycée à peu près. Mmh. J'avais, en cours de français, on avait étudié la poésie, mais après, c'était les poètes classiques, hein,
mmh. Oui.
Avantage. Donc, on avait étudié Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, principalement les poètes du 19e siècle. Et du coup, ça m'avait, il s'était produit quelque chose chez moi, quoi. Ça m'avait, je m'étais dit, ah, c'est intéressant d'écrire comme ça, d'avoir un petit peu ce rapport avec la langue, de chercher à lire des choses un petit peu autrement. Donc après, moi, j'avais à l'époque vraiment Rimbaud en un, et puis après, il y avait les autres du 19e siècle, mais je connaissais pas la poésie contemporaine. Et après, j'ai commencé un petit peu à découvrir la poésie contemporaine, et notamment par la chanson, en fait.
Oui.
Par exemple, Gainsbourg qui est en poster derrière.
Ouais.
Voilà, j'ai découvert ça quand j'étais... Quand j'étais à la fac, je me suis intéressé au texte. Et puis après, j'ai eu toute une période quand j'écoutais beaucoup de la chanson à texte comme ça, comme Gainsbourg, comme Brassens, comme Brel.
Mmh. Oui, je pensais à cela. Et à quel moment tu as commencé à écrire?
Ben, en fait, quand j'ai commencé à écouter ces chanteurs-là, Piaf aussi que j'ai écouté un peu. Quand j'ai commencé à les écouter, après j'ai commencé à écrire et en fait j'étais un petit peu dans l'imitation, si tu veux, de ce qu'ils écrivaient. Par exemple Gainsbourg, quand je peux relire des choses que j'écrivais, je sais pas, je devais avoir 20 ans quoi. Et quand je relis des choses que j'écrivais à cette époque-là, je me dis mais je faisais du plagiat de Gainsbourg quoi.
Enfin, ouais. Il faut bien commencer par quelque chose. Regarde, en peinture, souvent c'est comme ça, hein, on reproduit, puis après on peut y aller. Hein, il faut s'essayer à la.
Exactement, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir un temps comme ça, en fait, parce que de toute façon on ne crée pas à partir de rien. Et au début, quand je ne connaissais pas la poésie, enfin, quand je te disais, je connaissais un peu que la poésie du 19e siècle au début. Et en fait, donc ce que j'écrivais au début, c'était imprégné de ça, et puis après, quand j'ai découvert Gainsbourg et les chanteurs à texte, comme ça, c'était vraiment imprégné de ce que j'écoutais, de ce que j'avais lu, de ce que je connaissais.
Et tu montrais, tes textes à cette époque ou pas?
Très peu.
Très peu. Quand est-ce que tu as commencé à les montrer?
Très très peu. En fait, au début, j'écrivais quand même plutôt pour moi.
Oui.
Et après, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien savoir ce que ça vaut, quoi. Enfin, qu'est-ce que les gens, ils en pensent? Est-ce que ça leur fait quelque chose quand ils lisent un texte que j'ai écrit? Et voilà, alors après.
Donc, t'as créé un blog ou tu l'as lu autour?
Alors, non, pas tout de suite, en fait, au début.
Autour de toi, tu lisais ce que tu avais écrit ou tu donnais à lire?
En fait, au début, je connaissais des gens qui étaient en lettres, en prépa lettres, des choses comme ça. Donc, du coup, je leur faisais lire un petit peu ce que j'écrivais. Mm-hmm. Voilà. Après, j'avais des retours qui étaient... Je ne sais pas si c'était toujours sincère, hein, mais... on me disait, ah ouais, c'est pas mal et tout.
Et on peut toujours se poser la question. Hein. Tiens, il me dit que c'est
voilà,
bien parce qu'il m'aime bien. Quoi.
Question, hein. Exactement. Mm. Voilà. Et puis, en fait, après, la poésie contemporaine, je l'ai découvert plus tard.
Ouais.
Je dirais que je l'ai découvert il y a une petite dizaine d'années. Au moment du Printemps des Poètes d'ailleurs, et en fait comme j'écrivais de la poésie, à un moment j'étais tombé sur le journal du Printemps des Poètes, parce que dans les bibliothèques ils mettaient des journaux avec le programme. Donc j'avais regardé et puis je m'étais dit, ah tiens, il y a une lecture de poésie dans un bar que je connaissais, donc j'étais allé écouter, et en fait ça n'avait rien à voir avec ce que ce à quoi je m'attendais.
Ouais. Ça t'a ouvert des portes ensuite sur ton écriture?
Complètement. Mmh. Complètement. Et après, sur la même édition, j'ai fait d'autres choses. Du coup, je suis allé voir d'autres choses. Je suis allé écouter d'autres personnes. Et la première, je me rappelle bien, la première lecture auquel j'ai assisté, c'était une lecture d'un collectif de poètes lyonnais qui s'appelle le Syndicat des poètes qui vont mourir un jour.
Oui.
Dont Samantha Baronson fait partie.
Absolument, oui. Elle nous en avait parlé.
Exactement. Et donc, du coup, elle était à cette lecture. Et donc, je crois de mémoire que c'est une des premières poétesses contemporaines que j'ai vues lire en vrai.
OK.
Voilà. Et donc, suite à ça, c'est à partir de ce moment-là.
D'accord. Et on arrive à Demain incertain.
Alors ça, du coup, c'est quelques années plus tard. Donc entre ce temps-là, en vrai, je pense que c'était quoi, 2013-2014, un truc comme ça, et Demain incertain, ça sera en 2018. Donc entre-temps, tout à l'heure, tu as parlé d'un blog. Entre-temps, j'ai écrit, j'ai eu quelques publications en revue, et puis j'ai lancé un blog, effectivement, autour d'un projet de mise en musique d'un texte.
Oui, le projet
Kilda. Le projet Kilda, ça s'appelle.
Donc vous pouvez le trouver sur internet, vous tapez Kilda projet et vous pourrez déjà découvrir l'écriture de Clément Boleno. Et l'émission s'avance, ça va très très vite. Puis tu as beaucoup de choses à nous raconter. Moi je te propose, Clément, peut-être de nous faire découvrir ton écriture avec des extraits de Demain incertain. On peut déjà commencer par cela.
Eh ben, donc je vais lire des extraits de Demain incertain et puis après je mettrai un petit contexte dedans.
Allez, d'accord.
Rocher solitaire, égaré quelque part, si loin du monde, silencieux. Longtemps pourtant, le murmure des vents a colporté les cris d'enfants. Écho lointain d'un temps révolu. Sur les falaises, une fleur s'ouvre, comme la promesse d'un printemps encore fragile, soumis à la morsure du nord. Plus bas dans la baie, quelques volatiles se pavanent sur les ruines d'un village construit par les hommes. Des moutons gambadent paisiblement, insensibles à la mélancolie des lieux. Et toujours le vacarme de l'océan. Toujours cette lutte acharnée avec l'île, abandonnée, déjà morte, dont le nom s'efface sous l'assaut des marées. S'éloignant dans les ombres, les falaises déchirent les flots, noyant l'insensée certitude des lieux. Quelque part, un homme se souvient. Il se souvient d'un nid, d'un oiseau, d'une aile, d'un frôlement. Il se souvient d'un appui qui se dérobe, le cri d'un enfant. Et alors que tout semble terminé, cette lumière vive, soudaine, cette chute sans fin vers le petit matin.
Merci Clément. Donc nous venons d'entendre quelques extraits de Demain incertain, Clément Boleno. Donc ce Demain incertain qui a été publié aux éditions Gros Texte en 2018. Alors tu voulais mettre un petit contexte derrière tout cela et après on écoutera ton premier choix musical. On a plein de choses à écouter aussi, après. Hein. Alors ce contexte, il y avait l'île d'Ouessant là-dedans.
Alors, c'est pas l'île d'Ouessant, c'était une autre île.
Ouais.
Une autre île qui s'appelle. En fait, c'est un archipel qui s'appelle Saint-Kilda et qui a une histoire assez folle, qui a été occupée par des hommes pendant des millénaires jusqu'en 1930, où ils ont demandé à être évacués de leur île parce que la vie était devenue trop difficile.
Ouais.
Et puis, ils se rendaient compte, en fait, au contact du monde moderne, qu'il y avait tout un confort que eux n'avaient pas et qui rendait la vie sur l'île, notamment pour les plus jeunes, trop difficile. Et en fait, du coup, c'est un petit peu l'histoire de cette île que je raconte dans ce livre.
Et elle se trouve où, cette île ?
Alors, cette île, elle se trouve au large de l'Écosse, à une centaine de kilomètres au-delà des Hébrides extérieures. Donc, c'est au nord de l'Écosse.
Ok.
Et j'ai eu la chance d'y aller en 2017. Et c'est vraiment un endroit incroyable. Les falaises sont très, très impressionnantes. Il y a des milliers d'oiseaux. Il y a les ruines du village. Et c'est vraiment une île qui est très, très reculée. En fait, c'est presque inaccessible. On y va avec des petits bateaux, on met 4 heures pour y aller. On a traversé les Hébrides extérieures avec... c'était la tempête, quoi. Quand on est arrivé sur l'île, il faisait... Enfin, d'un coup, on est sorti de la tempête et puis il faisait grand soleil sur l'île. C'était assez, assez incroyable.
Et donc
c'est l'histoire de ce peuple-là.
Ouais, d'accord.
Voilà, qui m'a inspiré cette écriture-là. Et demain, à certains, tout le monde pensait encore quelques années auparavant que... la vie sur l'île ne s'arrêterait pas. Et en fait, du jour au lendemain, tout s'est arrêté, quoi. Et c'est un petit peu une métaphore de notre société aussi, où on a nos certitudes, on se dit que on arrivera toujours à s'en sortir, on arrivera toujours à contrer, par exemple, les effets du réchauffement climatique. Alors qu'en fait, il y a des exemples dans le passé qui nous montrent que tout peut s'arrêter du jour au lendemain.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va faire un petit temps de pause musicale avec ton premier choix. Je ne connaissais pas Ólafur Arnalds, ça se dit comme ça ?
Oui, c'est un musicien islandais. Encore une île.
Encore une île. On écoute We Contain Multitude. Vous êtes bien sur Radio Coteau, la poésie c'est jeudi, en compagnie de Clément Boleno, que nous sommes ravis d'accueillir pour fêter ses 5 ans d'émission tout de même, hein, Patrick, tu te rends compte?
C'est superbe, moi je dis.
On continue alors.
Et au bout de 5 ans, quelle maîtrise,
oh,
Isabelle.
Oh, mais que...
quelle fluidité.
Oh. Grand merci, venant de ta part, je prends ça comme un immense compliment. Clément, donc, tu as dit un petit peu, donc nous venons d'entendre Olafur Arnalds, j'espère que je prononce bien, parce que souvent des poulettes j'en fais. Donc ce choix est en lien complètement avec Demain Incertain, avec cette île de Kilda dont tu nous parlais juste avant.
Ouais, ça, et puis en lien avec les îles aussi, c'est vrai, hein, avec Wesson, on aura peut-être l'occasion de reparler.
On va voir, tu en as des choses à nous raconter, toi. Hein.
Ouais. Non, mais j'aime bien ce type, parce que enfin, lui, c'est un musicien, c'est un pianiste, et il fait beaucoup de choses très intéressantes. Et dans ce type, j'aime bien parce que c'est lent, ça fait ralentir. Et moi, quand je suis fatigué par le rythme de la journée, tout ça, j'aime bien me forcer à ralentir, quoi. Je trouve que ce genre de musique, ça fait un peu ce petit pas nécessaire pour souffler. Il y a quelque chose d'à la fois triste et joyeux dans ce titre, et avec une note d'espoir, je trouve. Enfin, c'est assez... tous les sentiments mélangés qui fait un peu la richesse de l'existence.
Ouais, il y a une certaine mélancolie, en effet, voilà, une certaine douceur aussi.
Mélancolie et douceur, oui.
Tu parlais de lenteur, moi je trouve cela dans tes textes, je trouve aussi qu'il y a vraiment, c'est-à-dire la lenteur, tu vois, l'œil qui ralentit, qui s'arrête sur un détail. Je crois que tant pis, on va enchaîner directement avec ce premier extrait, parce qu'on va quand même parler de la parution de Non-Lieu, ce nouveau recueil. Moi j'ai bien hâte qu'on y aille un peu plus. Donc on va écouter. Alors c'est une bande-son que tu m'as envoyée, qui a été donc réalisée avec une poétesse qui s'appelle Camille Ruiz, et qui a d'ailleurs réalisé l'habillage sonore. On va entendre sa voix, mais je crois que c'est dans la deuxième partie. Je vous propose un découpage. Ça porte un titre, c'est en fait l'annonce de ton recueil Non-Lieu, c'est ça?
Oui, en fait, c'est plusieurs extraits du recueil Non-Lieu qu'on a mis en habillage sonore, musique.
Ouais.
Voilà, il n'y a pas de titre particulier, mais c'est des extraits un petit peu pour donner une idée de l'ambiance générale.
Ouais, et bien aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clément Boleno et La Lenteur.
La ligne se perd dans le désert infini. La ligne se perd dans le désert infini. Côté, bien loin d'ici, un homme marche en équilibre sur le rail. Ses souliers sont usés, les lacets sont sortis de leur trou. La semelle quitte le rail, s'élève et se repose sans hésiter quelques centimètres plus loin. L'homme marche. Il ne risque rien. Le train est passé il y a longtemps. On ne voit plus sa couleur métallique. On n'entend plus le bercement régulier de la machine lancée à toute vitesse. Le prochain train n'est pas encore parti. Le chemin de fer finira forcément par arriver quelque part. cette heure-ci, la gare est déserte. Personne dans le hall éclairé. Il n'y a que la fille à moitié nue sur le panneau publicitaire et l'œil de la caméra de surveillance fixé sur elle. J'ai pris mon billet au distributeur automatique. Paiement sans contact accepté. Pour monter sur le quai, l'escalier n'en finissait pas d'ajouter des marches et les néons hésitaient entre jour et nuit. Là-haut, personne. Personne. Rien d'autre que le reflet du ciel nocturne entre les cailloux de la voie ferrée.
Voici donc un premier extrait de cette bande sonore que nous a envoyé Clément Boleno pour annoncer son ouvrage Non-lieu, donc en compagnie, cette bande son a été réalisée en compagnie de Camille Ruiz. Que d'images et quel habillage sonore. Enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment du bien, là, ce matin, Patrick. Je ne sais pas ce que tu en penses.
J'aime bien quand tu dis ça.
En fait, on est déjà l'après-midi, mais ça ne fait rien. Moi, j'ai l'impression d'être encore le matin.
Ouais.
On voit bien cette image de l'homme qui marche sur le rail. Et j'aime bien cette phrase aussi. Le chemin de fer finira forcément par arriver quelque part. Alors, c'est quoi ce non-lieu ?
Eh ben non-lieu, c'est un voyage, c'est une parenthèse dans l'espace, dans le temps un petit peu, où il y a plusieurs réalités un petit peu qui vont se mélanger, ouais. Se superposer. Et donc c'est un voyage en train, puisqu'il y a le personnage principal qui arrive dans une gare et qui prend un train.
Ouais.
Et en fait, on ne sait pas trop vers où va ce train, on ne sait pas trop pourquoi il a pris ce train. Tout ce qu'on sait, c'est que quand il est assis dans le compartiment, il va rencontrer des personnages. Des personnages qui sont un peu des reflets de ce qu'on peut croiser dans la société. Et puis de l'autre côté de la fenêtre, il y a le monde qui défile, qui va s'effacer, qui va s'embrouiller un petit peu.
Oui,
le train, il va traverser.
Oui. Si je me souviens bien, dans la deuxième partie qu'on va écouter tout à l'heure, il y a une histoire de baignoire aussi. Hein.
Oui, alors ça, c'est dans une deuxième partie. En fait, le train, il va parcourir des paysages, des villes.
Ouais.
Et puis, dans une ville, il y a un immeuble qui est perforé par la voie ferrée. Et puis, il y a une femme qui vit dans un appartement et c'est cette femme-là qui a un rapport avec la baignoire, effectivement.
Ouais. Et toi, tu as un rapport avec le paysage.
En fait, il y a deux rapports. Il y a les paysages et puis la ville avec ces personnes. Alors, dans les paysages, pour le coup, c'est assez vide de traces humaines. Et par contre, dans les villes, en fait, c'est un peu paradoxal parce que c'est des villes où il y a beaucoup de traces humaines, mais où on ne voit pas beaucoup d'humains.
Ouais.
Voilà, c'est un peu des. Il y a aussi un questionnement sur la ville, sur ce qu'on y fait, sur qui on est à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est cette femme qui habite dans un appartement, dans cet immeuble-là, on s'aperçoit au fur et à mesure de l'histoire qu'elle est quand même plutôt retirée du monde.
Ce qui n'est pas ton cas.
Ce qui n'est pas mon cas, non.
Sauf quand tu vas à l'île d'Ouessant.
Oui, effectivement, quand je vais sur l'île d'Ouessant, c'est un petit peu dans l'idée de se retirer, ouais, de se couper. Et je vais revenir à la lenteur, mais c'est d'avoir un rythme de vie qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus... qui est beaucoup plus respectueux de ma personne, entre guillemets, de ma personne, puis des autres, en fait. Moi, à l'origine, j'ai toujours eu du mal à me lever le matin et je fais un métier où je suis quand même obligé de me lever le matin.
Comme tous ces pauvres petits-enfants, d'ailleurs, avec leur
gros cartable. Exactement. Moi, j'étais plutôt couche-tard, lève-tard à l'origine et maintenant, je deviens couche-tôt, lève-tôt.
Oui, t'as inversé la tendance. On écoute Clément, tu nous lis un extrait de « Ici l'horizon ».
Avec plaisir.
Allez, c'est parti.
Alors, « Ici l'horizon », pour le coup, c'est un autre travail qui est en rapport avec l'île d'Ouessant dont tu viens de parler.
Mmh. Ouais, je rebondis un petit peu entre l'île d'Ouessant, Gilda, non-lieu.
Enfin, tu aimes bien te balader de toute façon.
Oui, mais on reste sur des îles.
Oui, voilà, on est sur des îles.
On reste sur des îles parce que finalement, les villes dans non-lieu, c'est un petit peu des îles au milieu de nulle part.
Oui, des îlots. Hein, ouais, cet immeuble avec cette femme notamment, ça m'évoque
exactement,
ça.
Oui.
Allez, on écoute « Ici l'horizon », donc encore autre chose.
Ici, les premières secondes saisissent les tripes. Après la traversée, le débarcadère émaillé de graffitis. La route se dresse comme un mur, taillé dans la roche gluante. Au pied des falaises, la mer se convulse, reflétée sur la surface du ciel, agacée. Foulant le bitume, Ouessant se dérobe encore. L'horizon est un trait tiré sur nos certitudes. Droite bleue infinie, tracée à la règle par un élève méticuleux. Un jour, la ligne se brise, interrompt sa monotonie. Le ciel sambre d'encre, vert émeraude, les vagues virent au gris. On secoue, on mélange, le bas, le haut, plus personne ne sait. Un jour, la ligne heurte la silhouette noire d'une île jetée par hasard sur l'océan. Miette de pain oubliée sur le sol crasseux de nos existences. Ici, on apprécie ceux qui arrivent sans faire de bruit. Ceux qui se fondent dans le paysage. Ceux qui ne laissent pas de traces dans le creux des chemins. L'horizon est une ligne brisée par la dureté de l'éclat gris des roches, impassible sentinelle sur le front de la tempête. Comment comprendre la force de ce qui pousse sur ces pierres, arrosées de pluie, battues par les vents, étouffées par les brumes? Ici, la mer vomit son trop-plein de civilisation. À chaque tempête, bois flotté, cordage, boule d'amarrage, emballage, sac et bouteille plastique, épave d'électroménager, objets divers, plastique, aux yeux de tous. Mauvaise conscience. L'horizon, ici, est le même que partout ailleurs, obscurci par l'emballement climatique et les tempêtes hivernales, hors saison. Voilà quelques extraits de « Ici l'horizon ».
Merci Clément. Bon, c'est vrai qu'on fait des allers-retours, mais tout est question d'île. J'aime beaucoup cette phrase encore, « L'horizon, un trait tiré par nos certitudes ». Hein, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure par rapport à ces personnes qui finalement ont quitté l'île.
Oui.
Hein, et tout ce qu'on retrouve aussi quand même de la civilisation, le plastique notamment, dans des lieux qui pourtant sont logiquement préservés.
Ben, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. L'été dernier, du coup, sur l'île, il y a eu un soir où il y a eu beaucoup de vent. Enfin, pour là-bas, c'était pas beaucoup, c'était 100 km/h, mais c'était quand même assez impressionnant.
Oui, c'est fréquent. Hein
oui, là-bas, c'est
fréquent. C'est bien agité. Ça monter,
hein. Oui, ça peut monter à 140-150 km/h. Enfin, c'est assez impressionnant. Et bon, donc il y a eu ce gros coup de vent, et puis le lendemain, bah, sur les bords de l'île, du côté de Portsgorette, en fait. Il y a une grande plage en galets, et puis dessus, en fait, il y avait plein de choses qui avaient été recrachées par la mer, plein de choses de la civilisation industrielle. En fait, il y avait des bouteilles plastiques, il y avait il y avait une vieille machine à laver qui était sur la plage. Enfin, il y avait plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, même ici, à Ouesson, oui. On est à l'écart, et un petit peu loin du continent. Bah, même ici, en fait, on voit les traces de ce qui tombe par an.
Alors, je vous propose, une histoire de ces fiches le rouge. On va reparler de ce deuxième choix musical. Merci beaucoup pour cet extrait de Ici l'horizon. J'aime vraiment beaucoup. On va écouter donc ton deuxième choix musical et puis après on va revenir sur nos lieux. Alors, on écoute Alors, tu le dis comment? Zadjaza?
Zadjaza, oui.
Ouais. Fiche le rouge X.
Une toile, une paix qu'on n'a pas pris le temps de grimer les étoiles, pas vrai. Je ramène les crayons, les feuilles, le champagne. Toi, gonfle le ballon, on va voler la campagne. Gros, faut se mettre au vert à l'arc-en-ciel. Dessiner des moutons dans le sable en croquant le ciel. Sortir le pince, ouais, pour fixer les moments présents. Une pelle, un saut, pour faire des châteaux volant comme avant. Imaginer des textures dans l'air pur, fumer de l'herbe en dilettante dans la nature. Saisir les instants magiques en regardant les nuages. Apprivoiser les roses pour le partage. On pensera à nos potes, on écrira les cartes postales cosmiques en fumant des clopes, mec. On dansera sous les étoiles en costard, enivré, mais libre jusqu'à tard au soir. C'est pour les rêveurs et leurs prières, pour ceux qui marchent la tête en l'air. Parce qu'il n'y a pas de magie sans couleur, ce sera bientôt ton coup de cœur. C'est pour les rêveurs et leurs prières, pour ceux qui marchent la tête en l'air. Parce qu'il n'y a pas de magie sans couleur. Trace la route, un baluchon, un casque, où t'en couchera sous les étoiles au mois d'août. Tranquille, on s'enquira les pastels de couleur vodka. On fera des étincelles sur des airs de polka. On vivra le sol pieds nus, plus proche des racines. Un carnet de croquis main nue, on peindra la cime de nos visions pittoresques. La magie dans le crayon, gigantesque. On tutoiera à l'horizon, on prendra le temps de flâner, d'observer le reflet de nos âmes dans l'huile de nos toiles salées. On visitera des mondes où les larmes n'existent pas. La fleur au fusain, on les dessinera. Et peut-être qu'on viendra en stop. Un maximum de paysages en tête. On partagera les stocks avec ceux qui le désirent, ceux qui n'y songent pas. Exprime de 0 à 3, voilà le constat. C'est pour les rêveurs et leurs prières. Pour ceux qui marchent la tête en l'air. Parce qu'il n'y a pas de magie sans couleur. Ce sera bientôt ton coup de cœur. C'est pour les rêveurs et leurs prières. Marche la tête en l'air. Explique. Parce qu'il n'y a pas de magie sans couleur.
Explique. Cette explosion de taches, de teintes, de lignes qui achève de nous placer dans un monde irréel, surréel, nous incite à penser que ce n'est pas sans intention que Exprime a associé ses essais surréels à la musique de jazz.
Thank you.
Et voilà, nous venons d'écouter donc le deuxième choix musical de notre invité, La Poésie c'est Jeudi, Clément Boleno. Alors là, c'était donc Zajaza, Fiche le Rouge, Exprime. Pourquoi ce choix, Clément ?
Pourquoi ce choix ? Bon, déjà, Zajaza, c'est un ami à moi.
Ouais.
Et du coup, j'avais envie de faire un petit clin d'œil et puis de valoriser un peu son travail parce que je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il fait.
Ben ouais, c'est très chouette. Ouais.
Ouais, c'est chouette. Ben, et puis là, c'est un duo donc, qu'il a fait. Puis ce que j'aime bien dans ce... Je te voyais bouger la tête et tout.
Oui, on a dansé ouais. Avec Patrick, ouais.
Voilà, exactement. Donc c'est quelque chose qui bouge un peu et puis qui met un peu la pêche et puis où il y a pas mal d'espoir dedans, je trouve. Et puis le texte est assez poétique. J'aime bien, il y a pas mal de tournures que j'aime bien. La fleur au fusain, on les dessinera, par exemple.
Oui.
Ouais, il détourne des expressions. J'aime bien la poésie qu'il y a dans le texte.
Dans le texte. Bah, merci pour la découverte et pour Radio Coteau. Alors, revenons à Non-Lieu. Ça s'est passé comment, cette aventure, les éditions L'Aïe des Ours? Ce sont eux qui t'ont contacté? C'est toi qui leur as envoyé ton manuscrit?
Alors, pour le coup, c'est plutôt un schéma classique, entre guillemets, dans le sens où c'est moi qui ai envoyé un manuscrit.
Oui.
En fait, j'ai découvert les éditions par le chant de la femme source d'Estelle Fenzi. Mmh. Voilà, j'ai bien aimé le texte, j'ai bien aimé le livre. J'ai trouvé que c'était un livre qui était bien construit, avec du joli papier, avec des jolies images. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi.
Donc, tu as choisi ta maison d'édition.
Ah, j'ai choisi. Après, je ne savais pas que ça allait marcher, mais disons que c'est important, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien avoir quand j'achète des livres de poésie, souvent, c'est des livres qui sont quand même jolis. Il y a un beau papier, il y a un vrai travail qui est fait de la part des éditeurs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez L'Aïe des Ours. Du coup, j'ai envoyé un manuscrit. Et puis, ben, il m'a répondu au bout d'un moment, disant qu'il était OK pour publier.
Et oui, tu m'as envoyé ce matin la photo de l'impression. Donc,
Oui, parce qu'en fait, il y a tout un parcours en fait, entre le moment où il m'a dit que c'était bon et le moment de la parution. Il y a quand même un travail avec l'éditeur sur... la mise en page, il y a des textes que j'ai retravaillés également.
Demande de l'éditeur ou parce que toi, tu as décidé de les retravailler?
Un petit peu sur les deux déjà, sur sa charte, entre guillemets. Mon texte original était trop long. Donc du coup, j'ai densifié un petit peu, j'ai taillé, j'ai enlevé des choses qu'avec le recul, je trouvais qu'il... Bon, voilà, que ça ne servait peut-être pas forcément de les conserver.
Parce qu'en fait, donc, c'est un texte d'une seule teneur, de la première page à la dernière.
En fait, c'est comme une sorte de récit un petit peu. Mais le récit d'origine était un petit peu plus long que ça. Et en fait, il y avait des textes, je me suis aperçu en relisant tout ça, qui n'étaient pas forcément... très pertinent de les conserver, qui était peut-être qui redisait des choses que j'avais déjà dit à d'autres moments, donc j'ai un petit peu réorganisé tout ça. Et puis on a travaillé avec Juliette Chaunet, qui est une artiste qui a fait l'accompagnement visuel du livre.
Donc l'illustration aussi sur la couverture, cette espèce de basket converse avec un œil.
C'est ça, et puis des lacets qui terminent
hors
comme
des trous
d'un arbre, un petit peu hors des trous, voilà, exactement. Et à l'intérieur du recueil, il y a 4 ou 5 illustrations, je ne me souviens plus du chiffre exact, qu'elle a fait aussi à partir de du texte. Donc il y a eu ce travail-là aussi, il y a eu... ensuite, tout ce qui est mis en page, tout ça. Et puis après, il y a les envois à l'imprimeur et les délais d'impression qui font que entre le temps où on sait qu'on a le livre qui sera publié et le temps de sortie, il y a toujours un temps d'écart, quoi.
Oui, alors justement, tu disais tout à l'heure que l'éditeur, donc, hein, les éditions L'Aigle et les Ours, alors là, en l'occurrence, l'ouvrage paraît dans la collection Grand Ours. Oui. Il y a Petit Ours aussi.
Moi, j'adore les noms des maisons d'édition. Oui. Hein. J'en découvre à chaque fois, oui. À chaque émission.
Oui, c'est vrai, Patrick, je vais te faire une liste un jour et je te l'offrirai encadré.
Je vais créer un répertoire.
tu disais que l'éditeur fonctionnait par abonnement. Tu nous racontes ça un peu ?
Oui, alors, principalement par abonnement. En fait, c'est un principe qui lui permet, lui, de savoir à l'avance, entre guillemets, combien de livres il va écouler, en gros, et de tirer en conséquence.
D'accord.
En fait, sur le site internet des éditions L'Aigle et les Ours, on peut s'abonner pour un an. Donc, en fait, on est abonné pour un an. Ça veut dire qu'on reçoit, je crois, 5 livres, parce qu'il doit, publier 5 livres dans l'année,
oui.
Pour 25 euros. Donc, pour 25 euros, on a 5 livres de poésie.
Super.
Qu'on reçoit en gros tous les 2-3 mois un livre. Voilà. Et donc en fait, ça lui permet d'avoir une base de lecteurs assez importante. Et ensuite, bien sûr, si on veut commander des livres à l'unité, c'est possible aussi sur le site. Hein. Ou alors, après, si on veut commander le livre en librairie, c'est possible aussi. Mais l'essentiel, entre guillemets, c'est des livres qui sont écoulés, c'est par ce système d'abonnement. Qui est assez intéressant, je trouve.
Et oui, puis ça lui donne une indication pour le nombre de tirages. Alors, il y a combien de tirages édités là, pour cet ouvrage ?
Ben, là, c'est pas mal, je crois. Je crois qu'il m'a dit qu'on allait tirer à 500 ou 600 exemplaires.
Oh, mais c'est carrément super.
Et en poésie, c'est assez...
C'est plutôt 250, non, hein, en poésie,
ouais,
voire 100. Ah oui, super, ouais.
Ah oui,
parce que c'est vrai que il y a une chose que je sais, ça c'est par la Maison des Écritures qui accueille, on en parlait, hein, Clément, quand on s'est entretenu au téléphone, il y a les auteurs qui peuvent aller en résidence à la Maison des Écritures, à Lombez, donc, puisque nous sommes dans le Gers, hein, je vous le rappelle. Il ne faut pas qu'ils soient du département, première chose. Et la deuxième chose, il faut qu'ils aient, je crois, au moins 300 tirages d'un ouvrage édité. Ah.
Donc, il faut que je mette une candidature ?
Je sais pas, pourquoi pas, ouais.
Ouais.
C'est vrai que je pensais à ça parce que je pense à une poétesse que j'ai invitée ici et en fait, elle a eu deux ouvrages, mais chacun à 250 exemplaires. Ça ne lui ouvrait pas la possibilité d'une bourse, puisque ça passe avec le Centre National des Lettres, hein, tout ça. Et il faut avoir effectivement un certain nombre de tirages pour accéder à une résidence. D'accord. Alors après, tous les lieux de résidence d'écriture ne fonctionnent peut-être pas comme ça. Mais effectivement, après, est-ce que tu as déjà pensé à faire une résidence d'écriture pour travailler sur un projet ? Parce que j'imagine que des projets, tu en as.
Oui, oui. Mais moi, ça me plairait beaucoup, hein, c'est sûr, de faire une résidence d'écriture parce que je pense que c'est un temps où on est vraiment concentré à 100% sur l'écriture et sur les projets. Et je pense que c'est un temps où on est assez... Enfin, on doit être, j'imagine, parce que je ne l'ai jamais pratiqué, mais on doit être assez, assez créatif.
Immergé, comme les îles.
Voilà, on est immergé. J'écoutais la précédente émission là, avec Mathilde Segond,
oui.
où elle parlait de ses résidences, même, parce qu'elle en a fait plusieurs. Et à chaque fois, enfin, ça avait l'air d'être très, très porteur, quoi. Que ce soit en termes d'écriture personnelle pour écrire des choses... sur des projets, ou alors comme elle faisait justement elle la dernière fois, où elle faisait beaucoup d'actions dans le village.
En termes de rencontres.
Voilà, en termes de rencontres, en termes de sensibilisation des gens à la poésie. Enfin, ça avait l'air très intéressant, quoi. Beaucoup de partage, beaucoup de rencontres. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît aussi. Pour moi, la poésie, c'est ça, quoi.
Mais beaucoup de cailloux.
Des partages, c'est des rencontres, c'est échanger avec d'autres auteurs. Comment ?
Non, Patrick disait beaucoup de cailloux, c'est vrai.
Oui, beaucoup de cailloux.
On est dans les cailloux. Je vais te proposer d'y réfléchir pendant qu'on écoute. Clément, tu réfléchis donc à une future résidence, pourquoi pas dans le Gers. Pendant qu'on écoute donc la deuxième partie de cette bande-son annonce de ton recueil Non-lieu, qui ça y est imprimé, il est tout beau, il est tout frais. Donc, c'est parti.
Deux yeux jaunes dans la nuit. Une gueule monstrueuse découpe le silence, disperse les étoiles. L'animal hurle, stoppé dans sa course. La porte devant moi s'ouvre, les autres restent fermées. Je suis le seul passager à monter au milieu de cette gare qui n'existe que par ma présence. Non-lieu. Elle ressent les premières vibrations du bâtiment. Elle s'enferme dans la salle de bain. Dans la glace, son image tremblante apparaît. Elle se déshabille sans se quitter des yeux et entre dans l'eau. Les secousses se font de plus en plus fortes. Dans la baignoire, l'eau bouillonne. Les vagues submergent le corps qui contient son souffle en apnée. Le bruit sourd du train arrive, étouffé au tympan gorgé. Ça va faire cet effet-là de boire la tasse, pense-t-elle, avant de refaire sur place. L'eau est froide, la baignoire toujours remplie. Au cas où. L'homme marche encore, funambule sur la ligne du chemin de fer. Ses souliers glissent sur l'acier aussi délicatement qu'il saisit, entre le pouce et l'index, les pétales d'une fleur fraîchement cueillie. Un par un, il les détache et les relâche négligemment. Le prochain train pourrait suivre sa piste. Je rêve qu'un train passe sous mon appartement. Tous les soirs, à la même heure, ses grands yeux jaunes transpercent l'immeuble qui tremble de tout son être. À chaque fois, il vacille un peu plus. J'avais rempli la baignoire pour le bain et j'ai retrouvé la pièce inondée. Cet endroit n'existe pas. Les secousses s'arrêtent, le silence revient. Sous mon siège, je sens le rail vibrer. Non-lieu.
En compagnie de Clément Boléno, la poésie c'est jeudi, nous étions à bord du train Non-lieu. Merci beaucoup Clément, cet habillage sonore réalisé donc par Camille Ruiz, dont on entend la voix aussi, oui. C'est superbe, c'est vraiment un moment hors du temps, merci
beaucoup.
Je l'ai
dit, ouais. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail qu'elle a fait, je trouve qu'elle est très talentueuse dans son habillage sonore.
Et fin.
Dommage qu'elle soit si loin au Brésil, parce que sinon je pense qu'on pourrait faire une petite tournée avec... Ça aurait été bien.
Il faut faire une tournée au Brésil.
Voilà.
Oui.
Bah toi qui aimes bien les îles, il y en a plein des îles autour du Brésil.
Oui, il y en a. Oui.
Donc, alors, je vous rappelle que cet ouvrage Non-lieu, vous pouvez soit le commander en librairie tout bientôt ou vous abonner via ce système que je trouve vraiment super et recevoir 5 ouvrages des éditions Light des Ours qu'on doit trouver facilement en ligne, j'imagine, hein, Clément.
Oui, il y a un site internet, on tape édition L'Œil des Ours et on tombe dessus.
Voilà, apparemment c'est simple. Après, si vous voulez lire du Clément Boleyno, bah, soit vous commandez donc cet ouvrage non-lieu, soit vous commandez Demain Incertain aux éditions Gros Texte. Vous pouvez peut-être vous procurer les trois petites truites éditions, un recueil collectif entre chiens et loups, ou encore un rêve aux éditions de l'Aigrette, là aussi recueil collectif, parce que les recueils collectifs, c'est toujours l'occasion de découvrir d'autres poètes et donc des complices, hein, je dirais ça comme ça. Je rappelle aussi que le site, vous pouvez trouver donc l'écriture de Clément, il y a également kildaprojet.com, poésie. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y avait un texte que j'aimais bien, moi. Tu l'as pas lu, celui-ci. Puis il y en avait quelques inédits. Il fait partie des inédits, non, même pas en plus.
Je sais plus, c'est le.
Oui.
Lequel,
non. Non.
Ah, c'est celui de Oui et Non. Non, c'est pas un inédit, lui.
Oui, mais non, c'est pas un inédit, puisque justement, il est sur Kilda.
Ouais, il a été publié dans la revue Poétisme il y a quelques mois, voire années, je sais plus.
Tu nous le lis, Clément?
Oui. Ouais, si tu veux.
Oui,
ouais.
Non. Non.
Allez, oui ou non, je ne sais pas, non, oui, oui.
Allez, oui.
Allez.
Oui.
Non. J'ai envie de répondre non, de répondre non quand on me demande si tout va, oui. Tout va, oui, si on n'y fait pas attention. On répond par habitude, la première chose qui nous traverse le crâne, l'esprit. La chose première, oui. On répond oui par habitude, par convention, parce qu'évidemment, on va tous oui. Parce qu'évidemment, on va tous oui tôt repartir chacun de son côté et qu'il ne faudrait quand même pas, non, quand même, il ne faudrait pas qu'on bouleverse notre habitude, celle de répondre oui, même quand c'est non. Faut le dire, il n'y a pas de quoi. Oui, plutôt de quoi non. Tout va non en ce moment. Tout va non, bah oui, la sécheresse, le réchauffement climatique, la sixième extinction de masse, la consommation qu'il faudrait relancer. Oui, la réponse est invariable. Oui, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Un demi-pas vers le non. On attend la suite, l'explication, quelque chose. Alors, comme ça, ça ne va pas complètement. C'est un oui incomplet. Mais on passe vite à autre chose. La couleur du ciel, les saisons qui n'existent plus, etc., etc., etc. Alors, j'ai envie de répondre non quand on me demande si tout va oui. Pour voir ce que ça ferait. Voilà, non, oui.
Merci Clément. On découvre dans la foulée un inédit. On attend Patrick encore d'écouter un inédit. Allez.
On attend d'écouter un inédit.
Non. Oui.
Non.
Non. Oui.
Oui. Non. Non. Oui.
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 Alors un inédit.
Un ou deux. Oui.
Allez.
Oui.
Sur un travail en cours. Oui. Deux.
Oui. Deux.
Trois. Ah, j'en ai beaucoup en fait des inédits. Donc.
Alors, on te laisse choisir.
Bon, alors, je commence. Inédit, issu d'un travail en cours, pour l'instant, je n'ai pas de titre. Hein, c'est des textes comme ça.
Ok.
Je cours à perdre haleine, esquive les obstacles, flirte avec la périphérie. À contresens, ils descendent les marches, je les monte. Ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours foutu le vertige, ça. Du portail automatique de la station aux portes automatiques de la rame de métro, environ 437 pas. Pas besoin de connaître le nombre exact de voyageurs sur la journée. Si l'on additionnait tous leurs pas, on pourrait faire plusieurs fois le tour de la Terre. Perdre haleine, oublier de respirer, de manger, de boire, de dormir, de faire l'amour, tout ça c'est banal, commun. Mais on n'oublie pas de travailler, même quand le corps ne suit plus, quand la tête, le cœur, l'aorte, on courbe l'échine, on rentre ses membres dans sa carapace de papier, on s'efface, ça va aller, on trouve toujours une raison de ne pas déserter la vie. J'allaite. J'ai mal derrière les oreilles. La rue bourdonne comme une ruche ivre de fleurs. En haut des escaliers automatiques, on voit la couleur du ciel. Une tache bleu-gris. Le genre de ciel qu'on voit dans la mer, à Perm, par exemple, avant la tempête. Pas de sel ici. J'aspire l'air vicié chargé de particules extra fines. L'humidité autour de la bouche et la température qui chute à mesure que j'escalade les dernières marches. Machinalement, je jette un œil à l'écran de mon smartphone. Signal reçu 5 sur 5. Notification en attente, joignable partout, tout le temps. Même sous terre, on ne peut plus disparaître. Regarde, la nuit se lève sur la ville. C'est l'heure des ombres mouvantes entre chiens et loups. Sous la lueur des réverbères, dans la zone d'influence des vitrines et des panneaux publicitaires. C'est l'heure où des yeux jaunes, rouges, blancs dévorent le moindre recoin de pénombre. L'heure où les bureaux restent en alerte. Les ordinateurs en veille. Au-dessus de ma tête, je cherche l'obscurité. Une étoile clignotante file sur un voile lacté. Dans la clarté nocturne, les arbres frémissent, incapables de fermer l'œil, tandis que l'humanité insomniaque, hypnotisée par l'écran LED Full HD, pianote entre deux pages de pub. Un jour, j'ai lu un article racontant qu'il existait des enfants qui n'ont jamais vu d'étoiles. Un jour, j'ai lu un article expliquant que 80% de la population mondiale ne voit plus la nuit noire. Pendant ce temps-là, les lucioles dépérissent, disparaissent de la mémoire des enfants. Regarde, la nuit n'existe plus. Et chacun tire la couverture à soi.
Merci. Merci Clément. Je suis ravie d'avoir entendu notamment ce dernier inédit que j'avais eu la chance de découvrir quelques temps auparavant. J'aime beaucoup et c'est vrai que d'alerter sur ce phénomène-là, hein, d'avoir la nuit noire, hein, à part en fermant ses volets.
C'est ça.
Et encore.
Et ses yeux.
Et ses yeux. Et encore que. Ah là là, merci pour ces. Ben, on a de la chance à Radio Coteau. La poésie, c'est jeudi. On découvre les inédits de Clément Boléno. Quel bon moment on passe avec toi, Clément. On arrive au terme de l'émission.
Moi aussi, c'est un plaisir.
Ouais, c'est vrai. Hein, ça fait beaucoup de bien, cette lenteur, cette douceur, hein, Patrick.
Cette parenthèse enchantée.
Oui.
Je peux lui poser une question.
Mais bien sûr.
Je voulais revenir sur le lien entre l'enseignant et le poète. Hein.
Oui.
Je passe à rentrer dans l'intimité, mais qui répond à l'autre, hein? Ou est-ce que c'est un seul personnage,
hein? C'est dur comme question, ça. Mm.
Je pense que tu l'as gardé pour la fin, celle-ci. Hein.
Oui, on garde le meilleur.
Mais je l'ai la depuis
fin.
Le début. Hein.
ouais. Je pense que c'est. Je pense que c'est deux personnes qui se répondent et qui se font face et qui se font face. Pas forcément dans le sens d'opposé, mais qui se renvoient des choses et qui se complètent finalement. J'espère.
Et alors, les deux personnes qui se font face et qui se répondent, est-ce qu'elles vont continuer d'aller vers la poésie en musique ?
Oui, hein ? Oui. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, lier musique et poésie. Enfin, je te l'avais dit quand on s'était contacté.
Oui, on a beaucoup échangé, c'est vrai. Hein. On s'est
voilà, la musique et la poésie, c'est vraiment... deux choses, je trouve, qui se marient très bien. Le générique de l'émission.
Ah, bon, oui, moi, on j'adore, adore. Ouais, nous aussi, ouais. On est fans.
C'est
ouais.
pas le premier qui le dit. Hein.
Ouais.
Comment ?
Tu n'es pas le premier qui le dit, qui aime beaucoup le générique.
Ah ouais, non, le générique, moi j'aime beaucoup à la fois la musique et puis le texte. Que ouais, je fasse comme si, que je fasse comme si.
Ouais.
Vraiment, c'est...
Mais pas de suite.
Mais pas de suite, voilà, exactement. Non, mais moi, oui, musique et texte, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui me plaît. Et à l'avenir, j'aimerais pouvoir faire des lectures musicales plus fréquemment que ce que j'ai pu le faire. Bon, après, il y a eu la parenthèse Covid qui a un petit peu... perturber tout ça, où il y a beaucoup de choses qui se sont annulées, reportées,
oui.
Donc voilà. Mais là, avec ce nouveau livre, j'ai un projet de pouvoir tourner avec un musicien, de faire des lectures musicales, poétiques avec un musicien.
Ah, ben je te le souhaite vraiment.
Et puis je viendrai en résidence
bien
pour
voilà.
le faire et comme ça je pourrais passer dans les studios aussi.
Ah oui, tu viendras voir les coteaux. Tu viendras voilà. voir les coteaux. Clément, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir dit de toi, d'avoir lu.
Patrick, merci à toi de m'avoir invité.
Ah oui, mais j'ai eu un coup de cœur. Oui, j'ai
Merci.
Eu un coup de cœur, voilà. Ça arrive des fois, enfin ça arrive souvent d'ailleurs. Merci à Patrick, à la technique, mon cher compagnon des ondes, Patrick Martinez, toujours là, toujours présent. Clément, je te souhaite plein de choses, plein de bonnes choses, plein d'îles, voilà, de jolis voyages en train.
Moi, prochainement un voyage en train, mais.
Oui, et je vais m'abonner alors aux éditions L'Aïe des Ours.
Ah bah écoute, avec plaisir. Hein. Et puis je t'enverrai aussi une carte postale d'Ouessant, je peux lui dire pour moi.
Ah, très volontiers, très volontiers. Je t'envoie mon adresse.
Avec plaisir.
Ah, on va t'envoyer voilà, toutes les adresses postales du coin. Clément, belle suite à toi, belle
Merci.
Fin de journée. Et
Merci.
Puis on se dit à très bientôt, on se quitte sur les génériques.
Allez.
Au revoir.
Au revoir. Et
au revoir.
Salut,
merci de m'avoir invité.
Merci à toi.
La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie.
Mémodio, une mémoire sonore.